Thomas Baumgartner, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Et dans la revue de presse, on commence par une première page pleine de vitalité.
C'est la une de Libération avec un dessin de Willem qui salue la disparition de son collègue et ami Ciné à l'âge de 87 ans. C'est arrivé hier, le dessinateur Ciné, anard à part et ennemi de l'ordre établi, comme c'est écrit sur cette première page. Le dessin de Willem montre un cercueil dont le couvercle est brisé d'un coup par un bras qui s'en échappe, un bras au bout duquel surgit un doigt d'honneur vivant et vivace. Mourir plutôt crever, c'est le titre de cette une exclamation et un aphorisme en même temps inventé par Ciné. Éternel pourfendeur de l'ordre établi et des cons, voilà comment il est décrit en page intérieure par Éric Favreau qui rappelle ce témoignage de Jean Genet, un mot que l'écrivain avait adressé au dessinateur. Mon cher Bob, vous me ressemblez à bien des égards, vous et moi n'aurons jamais la Légion d'honneur, Prévert peut-être, Brassens aussi, Sartre sûrement, mais nous pas. Favreau rappelle que le père de Ciné était ferronnier d'art, condamné à plusieurs années de travaux forcés, ce qui n'a pas peu contribué, dit-il, à sa méfiance chronique envers l'État, la justice et la police. À 14 ans, il entre à l'école Estienne, étudie le dessin et la maquette et un jour il tombe sur les dessins d'un Roumain devenu le plus célèbre des illustrateurs américains, Saul Steinberg. Ce sera l'une de ses principales sources d'inspiration, nous dit-on. Ciné est un créateur de journaux, s'y raconte plus loin dans Libération, toujours Frédéric Roussel. Ciné massacre, 9 numéros, 9 procès, disait-il, avec Jean-Jacques Pauvert, lancé après avoir quitté l'Express, ensuite L'Enragé en 1968. Et en 2008, Ciné Hebdo, qui devient ensuite Ciné Mensuel, le journal qui fait mal et ça fait du bien, c'est le slogan. Entre-temps, il y a la collaboration à Charlie Hebdo, dont il est renvoyé pour une chronique jugée antisémite. Poursuivi par la LICRA pour incitation à la haine raciale, Ciné a été relaxé le 24 février 2009, rappelle Frédéric Roussel, les juges considérant qu'il avait usé de son droit à la satire. « Je suis brutal », disait-il, et les paroles sont rapportées ici par l'écrivaine Sylvie Caster. « Je suis brutal et ça ne m'étonne pas qu'on me foute sur la gueule, mais antisémite, non, ça me fout en l'air. » Ciné était un anard pur et dur, rappelle le réalisateur Benoît Delépine dans les mêmes pages. C'était un personnage magnifique, un grognard joyeux. C'est quelqu'un qui m'a appris à avoir du courage, dit le dessinateur Yann Lindingre un peu plus loin. Il m'a appris à tout remettre en cause, à ne pas avoir peur d'avancer parce que ça paye au final. Il a continué à avoir 20 ans dans sa tête. Ces dernières années, il a trompé la mort. Il a guéri miraculeusement de je ne sais combien d'opérations, continue Lindingre. Il sortait du coma, il écrivait, il faisait la fête, il lisait la presse, bouquinait, écoutait du jazz. Il ne cassait pas les couilles des jeunes, il était la preuve que jusqu'au bout, on peut se faire plaisir en se marrant. Et enfin, le dessinateur Philippe Geluck rappelle que Ciné était un grand graphiste. Et il suffit de voir la couverture de l'édition de poche de Zazie dans le métro, de Queneau, reproduite à côté de ses témoignages, pour s'en persuader. Ciné, la une et cinq pages, c'est dans Libération ce matin.
Tout autre sujet dans son édition datée d'aujourd'hui, Le Monde propose une enquête de terrain, Thomas.
Florence Omna signe sous le titre La bande de Molenbeek avec Soren Cello et Élise Vincent. Elle s'est rendue à Molenbeek, désormais fameux quartier de Bruxelles. Accrou, Abaoud, Abdeslam, Abrini, Darmani, ici, ils sont une vingtaine de jeunes gens impliqués à des degrés divers dans les attentats les plus meurtriers jamais commis en France, écrit la journaliste dans Le Monde. Ils ont grandi ensemble, voisins, cousins, petite bande, labourant un territoire minuscule entre le canal et le chemin de fer, appelé le Bas Molenbeek. Avec les tueries de Bruxelles en mars, les arrestations se sont enchaînées. En 6 mois, 160 perquisitions, plus de 300 auditions. Il n'y a pas de zone de non-droit à Molenbeek. Nos 17 000 jeunes ne doivent pas être stigmatisés, répète la bourgmestre de cette commune de 100 000 habitants, Françoise Skepmans du mouvement réformateur, le parti libéral francophone, avec une inusable patience. Une affaire en revanche la met sur les nerfs, souligne Florence Omna. La liste que l'organe de coordination pour l'analyse de la menace lui a transmise en juin 2015, recensant 85 personnes présumées radicalisées dans la commune, 5 mois avant les tueries de Paris, s'y égrènent déjà ces noms, Abaoud, Abdeslam, Abrini, Accrou. À ce moment-là, on n'a pas tilté, dit la bourgmestre dans Le Monde. Que pouvait-on faire? On n'est pas la police. Les guides touristiques ont apparemment adapté leur discours à Molenbeek en ce moment. Florence Omna raconte, à quelques pas de ce qui fut le magasin d'Abdelhamid Abaoud, sur la place communale, un groupe de touristes écoute un guide sous un parapluie rouge raconter le passé industriel de Molenbeek. Sans transition, le guide poursuit, derrière vous, au numéro 30, la maison de la famille Abdeslam au premier étage. Au balcon, un rideau bouge à peine. La famille se barricade des jours entiers à chaque rebondissement du dossier. Le 13 novembre 2015, à 21h41, Brahim, l'aîné, a déclenché sa ceinture d'explosifs dans un café à Paris. Étiqueté ennemi public numéro 1, seul survivant des commandos en France, son frère, Salah, a été arrêté en mars après 4 mois de cavale et transféré le 27 avril à Fleury-Mérogis. Alors Florence Omna rappelle que les frères Abdeslam avaient ouvert un café rue des Béines. Elle rapporte qu'à l'époque, on y sert plus de shit que de bière. C'est à 3 stations de métro du Molenbeek historique. Mais déjà un autre monde. Ils n'auraient pas osé s'installer dans le quartier. Les vrais caïds ne l'auraient pas permis. Eux sont des petites victimes courbant la tête devant les durs, dit un ami. Au Béguin, ils sont une 20aine d'habitués, loin des gros établissements bruxellois qui tournent à plus d'un kilo par jour et 6000 euros de gains. Brahim Abdeslam lève rarement la tête de son écran branché en continu sur la Syrie. On Skype avec ceux qui sont partis. Voilà quelques-uns des éléments de cette grande double page dans le monde daté d'aujourd'hui qui entremêle le récit du parcours des différents protagonistes des attentats et l'histoire de la commune de Molenbeek.
Et vous concluez cette revue de presse, Thomas, avec quelques objets.
Des objets qui ne nous appartiennent plus apparemment. Dans Les Échos, Édouard Lederer analyse la tendance suivante. Pour les consommateurs, la possession d'un bien est désormais moins importante que son usage. La propriété aurait-elle du plomb dans l'aile, demande-t-il, et il aborde la question à travers l'exemple de la voiture. Voilà que les conducteurs préfèrent désormais louer leur véhicule plutôt que le posséder. Une révolution alors que le véhicule a si longtemps été synonyme de réussite sociale. La location avec option d'achat progresse de façon exponentielle. Cette formule permet de louer un véhicule pendant 3 ans, avec à l'issue la possibilité de le racheter ou d'en louer un nouveau. Il ajoute, sur les 3 premiers mois de l'année, le financement en LOA, donc en location avec option d'achat, a bondi de 35,7%. Le mouvement s'est déclenché dans la téléphonie. La propriété a perdu du terrain dans d'autres domaines, la musique, mais aussi dans le marché des résidences secondaires. Pour les jeunes générations, dit-il, les compagnies aériennes low cost et désormais Airbnb permettent de varier les destinations et de ne pas s'encombrer de l'entretien d'une propriété. Note du traducteur, au passage, on peut aussi imaginer que les jeunes générations n'ont pas les moyens de s'acheter une résidence secondaire, locataire de tout, propriétaire de rien. Un bout de l'époque, c'est à retrouver dans Les Échos aujourd'hui. Bonne journée.
Et dites-nous tout de même, avant de partir comme ça, Thomas, qu'est-ce qui est le programme de Supersonic demain soir à 23h?
Oui, demain, samedi à 23h, Supersonic, une émission à écouter au casque ou avec des oreillettes, puisque c'est une session en relief, en son 3D. C'est ce qu'on fait de temps en temps dans Supersonic. Et là, on a proposé à la chanteuse Élise Caron et au batteur Édouard Perrault d'improviser autour de ce dispositif. Vous verrez, ça pétille.